la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission directe de La Lorgnette, la première de l'année 2016, la 25e du nom. Une émission aujourd'hui consacrée à la poésie avec tous nos chroniqueuses qui sont présentes et notre chroniqueur Nico. Salut Nico.
Salut.
Voilà.
Salut.
T'as vu, en un mois, t'as oublié qu'il te fallait un micro, c'est intéressant ça. Salut Héloïse.
Salut les gens.
Salut Valérie.
Salut.
Bonne année Valérie.
Merci, meilleurs vœux à toi aussi. Alors, Ludo.
On s'était pas vu encore tous les deux, c'est pour ça.
Bonne année, bonne santé.
Merci, et tout ce qui va avec.
N'est-ce pas?
Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Alors, une émission consacrée à la poésie, c'est la première sur ces 25 émissions qui est consacrée à ce style d'écriture qui est propre. Héloïse, tu veux peut-être nous faire une petite introduction sur...
Oui, sur le genre de la poésie. Je voulais dire que souvent la littérature, ça peut faire peur, ça peut paraître snob, tiré par les cheveux, élitiste. Il y a souvent cette image de la littérature et je pense que c'est encore pire pour la poésie. C'est-à-dire que ça suscite beaucoup de préjugés et voilà, je voulais éclaircir ce point-là. Je vais vous lire deux définitions du mot poésie dans le Larousse actuel, le dernier Larousse. C'est l'art d'évoquer et de suggérer les sensations, les impressions, les émotions les plus vives par l'union intense des mots, des rythmes, des harmonies et en particulier par les vers. Et la définition du Larousse des années 60, caractère de ce qui touche, élève et charme. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la littérature, enfin, la poésie, c'est une littérature des sensations, c'est une littérature qui est souvent courte et qui est du coup facile à appréhender. Il faut pas trop, je pense, quand on lit la poésie, pas trop réfléchir, pas trop se prendre la tête et se laisser porter par les mots. Parce que la poésie, en fait, c'est juste l'art de mettre en image le quotidien. Et je pense qu'on croise beaucoup de poètes dans nos vies, dont ce n'est pas forcément le métier. Ce qui m'amène à citer deux personnes que je trouve très poétiques chacune dans leur genre. Donc, Michel Galabru. Sur la tombe des vrais poètes, la nuit, il y a souvent des vers luisants. Et David Bowie, lettre à Hermione. La main qui a écrit cette lettre nettoie l'oreiller, alors repose ta tête et lis un rêve précieux. Je ne me soucie de personne d'autre que toi. Je déchire mon âme pour mettre fin à la douleur. Je crois que tu te sens peut-être comme moi. Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas vraiment ce que nous sommes censés faire. Alors j'écris pour toi seulement.
Très voilà, bien. Moi, c'était... j'ai une citation aussi que tu as oubliée qui dit « Allez Céline, prends les deux mioches, on va à Las Vegas » de René.
Sans oublier René. Oui, j'ai pas eu le temps de trouver une belle citation.
Non, c'est pas René, c'est René.
Tabarnak.
S'il vous plaît.
Donc tout ça pour dire que sans pour autant déprécier le genre et dire que tout le monde peut être poète, peut devenir poète, je pense qu'on devrait être un peu plus décomplexé par rapport à ce style-là de littérature. On devrait arrêter de le mettre sur un piédestal. Et la lecture de la poésie doit être avant tout, selon moi, un plaisir de la langue, des mots, un jeu littéraire. C'est un genre aussi qui nous amène à changer petit à petit notre vision du monde et à voir les choses autrement. Donc c'est vraiment un style intéressant et c'est vrai que moi, personnellement, je n'en lis pas beaucoup non plus. Et le fait de faire cette émission, d'avoir choisi le thème de la poésie, ça m'a permis de découvrir plein de choses et donc je suis assez contente d'avoir redécouvert ce style. Et je vais finir par une petite citation d'Alain que je trouve assez appropriée.
Alain, dit, le chanteur ou le poète?
Le poète.
Alain Bertrand.
Pour la cérémonie
c'est
des
voeux. C'est un poète aussi dans son genre, mais. Donc une citation d'Alain. Quand un poète vous semble obscur, cherchez bien et ne cherchez pas loin. Il n'y a d'obscur que la merveilleuse rencontre du corps et de l'idée qui opère la résurrection du langage.
Très beau,
voilà.
Très juste. Le problème, c'est que maintenant, tous les écrivains, la quasi-totalité des romanciers, etc., mettent de la poésie dans leur écriture. Tout est poésie.
Oui.
Donc, est-ce que c'est pas un frein à aller rechercher des livres de poésie alors qu'on les retrouve dans ces romans qu'on lit, qui racontent des histoires
Oui.
Je sais pas, hein, alors... je me pose la question.
Je sais pas, oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de poésie dans certains romans, mais même dans certains envie. Essais, etc. Mais c'est aussi bien d'aller appréhender la poésie contemporaine et même la poésie classique, parce que dans la forme, il y a quand même quelque chose de différent. Et il y a plus de liberté dans l'usage des mots et dans la pratique de l'écriture.
Puis la façon de lire aussi, tu lis pas pareil un recueil de poésie qu'un roman. Le recueil de poésie, tu vas l'ouvrir n'importe où, dans
puis
le niveau
tu,
de la...
Voilà, et puis tu le feuillettes, tu lis une ou deux poésies, tu vois, c'est un truc que tu gardes à côté de ton oreiller. Tu lis quelques poèmes avant de t'endormir, c'est génial, non?
Tout dépend du livre. On en rediscute.
Tout dépend des poésies.
Mais justement,
le Cancre, par exemple, de Jacques Prévert.
Voilà.
Bon, si t'es ado, t'as de très mauvais résultats.
C'est ça.
Tu lis ça, ça te fout la pêche.
Est-ce que tu disais ça, Valérie, par rapport à Pascal Rebetz, ou pas du tout?
Rebetez. Pour une fois que c'est pas moi.
Rebetz.
Non, c'est que t'avais
le
oublié.
Groupe, c'est les Rubetz, mais toi, t'étais pas c'est... né.
Non, hein pas encore.
Non, mais moi, c'est... Alors, moi, je l'ai pas pris avec moi dans le lit, parce qu'il y a sur la couverture, déjà, il y a une aquarelle d'une femme nue. Donc voilà.
Ça t'a gêné.
Ça m'a un peu gêné. Oui, concurrence déloyale. Parce que moi, bon, elle fait un petit 36. Voilà. Non, difficile exercice hein, que de lire des livres de poésie quand le dernier qu'on a lu, effectivement, c'était le jour du bac de français il y a 3-4 ans. Qui rit.
La vache.
Voilà, donc.
Non, c'est Pauline.
C'est Pauline. Donc voilà, donc Pascal Rebetez, d'abord je vais vous parler un peu de l'auteur. Donc Pascal, si tu nous écoutes, ce dont je ne doute pas, aujourd'hui, joyeux anniversaire avec 4 jours de retard, tu ne fais pas tes 60 ans. Ce recueil de poésie, je l'ai appelé, mais je crois que le terme avait déjà été utilisé, c'est un olni. C'est un objet littéraire non identifié. Comment est-ce que cet olni est arrivé jusque dans les studios de 48 FM aujourd'hui? Donc, genèse de Pascal, ce jurassien, fils d'artiste. Pascal étudiait le théâtre, puis après, il a collaboré avec des journaux, des radios, des chaînes de télévision du Jura. Il est quand même assez Jura suisse. Il travaille aujourd'hui avec sa compagne. Ils ont créé une revue, une maison d'édition qui s'appelle D'autre part. Que je connaissais pas. Je sais pas si Louise, tu connais.
Et moi non plus.
Eh bien, il faut que tu connaisses, parce que de toute façon, je vais te commander un livre de cette maison d'édition, parce que j'ai été farfouillée. Et c'est vraiment des petits bouquins. C'est pas mal de petits auteurs jurassiens, c'est ça?
Jurassique, non.
Jurassique,
parce que ça fait
non.
Un peu ancien.
C'est beaucoup plus vieux.
Ouais,
voilà. Cool. Et donc, ils sont indépendants et on se rend vite compte quand on creuse sur Pascal qu'il est. Il est issu d'une famille touche à tout. Son frère avait fait des super photographies. Enfin, c'est une famille d'artistes et ça se ressent quand on lit ses poésies. Alors moi, j'étais hyper sceptique sur le thème de la poésie quand j'ai commencé à ouvrir son livre. Ce recueil de poésie, il y avait le titre, c'était un nom de ville, et en dessous, il y avait un poème d'amour, et puis finalement, j'ai creusé un peu plus, et c'était Caliente, quoi. À côté, 50 nuances degrés, c'est fade. On rentre
gris,
dans
quoi.
L'intimité, voilà, c'est très gris. On rentre dans l'intimité de, alors, est-ce que c'est lui et sa femme? Est-ce que c'est un personnage imaginaire et ses amantes? Je sais pas.
C'est des poésies
c'est
de...
super beau. Et en fait, c'est un voyage de A à Z. Si on ouvre sur n'importe. Là, je suis à Sartène. Là, je suis à Annecy. Là, je suis sur l'A1. Pas très romantique. Voilà. Et chaque page, en fait, est un lieu géographique différent. Et c'est un peu une ode à la femme, une ode au corps, une ode à l'amour. Ça n'a rien de cucu, bien au contraire. Pour couronner le tout, les aquarelles qui sont, les dessins, il y a des peintures à l'intérieur qui sont superbes. C'est des peintures sur cartes maritimes. En fait, le peintre qui avait ça, Isis Olivier, a fait des peintures sur des cartes maritimes. On peut se demander pourquoi. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. C'est que pour elle, en fait, les symboles donc des cartes représentent un peu des parties intimes, que ce soit la croix là qui fait nord-sud-ouest-est, tout
la
ça.
La boussole.
La rose des vents. Merci Pauline, qui pour elle représente un nombril. Enfin voilà, et ça rend très très bien. C'est d'autant plus joliment fait que c'est fait par une petite maison d'édition que ceux qui ont eu la chance de venir à la Lorgnette voir Robert Picamiglio en décembre ont pu rencontrer donc le
Jean-Claude Bernard,
de la maison, des éditions Encre et Lumière. Donc là, c'est imprimé donc dans son atelier de typographie dans le Gard. C'est une maison qui utilise qui imprime ses livres de façon manuelle au plomb, suivant la tradition Gutenberg. Et c'est vrai que ça donne au livre un aspect très très particulier, et on a l'impression d'avoir un exemplaire totalement unique dans les mêmes. On a vraiment l'impression d'avoir une œuvre que pour soi dans les mains. Donc un livre en tant qu'objet, des histoires en tant que poème, et en plus des superbes aquarelles. Et ceux qui n'aiment pas les aquarelles de ces femmes nues, ce livre existe aussi, mais illustré par d'autres peintures de Michel Julliard, qui sont plus style Picasso. Donc si on n'aime pas ces aquarelles, on peut avoir le même livre, mais avec d'autres illustrations.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Voilà.
C'est chouette.
Donc, c'est... au début, autant j'étais sceptique, et petit à petit, les textes m'ont plu, les dessins m'ont plu. La maison d'édition, j'avais discuté avec lui quand il était venu, il m'avait un peu embarqué dans sa façon de travailler. Du coup, c'est un 3-in-1, et c'est complet, donc c'est assez sympathique, c'est assez barré hein, dans l'écriture, on est loin de l'écriture contemporaine.
Tu vas nous lire un extrait, enfin, ouais. Un poème. Hein.
Un petit clin d'œil, hein, je vais lire le Budapest.
Ah, voilà. Budapest, il est chaud. Hein.
Voilà, il est chaud. Donc c'est « Dire ton aisselle, les narines palpitantes, la bouche qui belle, aux fumées de tes plis, et de leur sel dans la nuit centrale. Je suis envieux de tes râles et de tes creux, et de ce peu de poils qui t'en m'émeut. » Voilà.
Non, c'est bien.
Voilà, c'est toujours dans ce style-là.
C'est en rime.
Alors là, j'ai pas compté les pieds et les strophes.
Je croyais que ça avait disparu les rimes.
Non, c'est moins courant quand même de faire des rimes.
Mais ça, je l'ai découvert en parlant avec toi avant.
Oui, c'est pas les alexandrins et tout ça. On est loin de l'écriture classique de la poésie, mais c'est ce qui le rend peut-être moins imbuvable que certains classiques de mon petit point de vue à moi. Voilà, donc c'est vraiment à voir. Enfin, moi, j'ai été touchée.
Bien, ouais, moi, je trouve les. Les aquarelles, assez jolies. Ouais. Ouais,
et pour ceux qui n'aiment pas les aquarelles, c'est assez marrant de rééditer le même livre en même temps avec les illustrations d'un autre artiste.
Est-ce que ce sont les mêmes modèles sur l'autre artiste?
Non, ça n'a rien à voir. On est plus sur du Picasso, comme je disais, sur des trucs très, très colorés, très, la couverture sur fond noir, un peu comme ceux de Picamiglio, mais avec des couleurs très vives à l'intérieur.
D'accord.
Là, ça n'a rien à voir.
D'accord, super, voilà. Merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Valérie, toujours aussi claire et concise en 2016.
N'est-il pas, voilà, faut être simple et efficace. Hein,
c'est très bien.
Tout dans la droiture.
On va voir Héloïse si c'est également le cas avec Journal Sénéca.
Journal Sénéca de Jérôme Rothenberg. Alors je vous invite tous maintenant à allumer votre calumet de la paix et à vous asseoir en tailleur autour de la table.
Ça y est.
Parce qu'on va.
Il est plus mon
c'est bon, tout le monde est bon. Sur la tête de préférence, Nico. Ouais.
Tu t'es trompé, Nico. Non, pas là.
Ah, c'est pas la bonne émission.
Non, c'est le jeudi midi, ça.
Voilà, parce qu'on va parler de Journal Sénéca.
Allons-y.
Donc Sénéca, ou plus exactement Sénéca Cayuga Nation, c'est une réserve indienne en Oklahoma. L'auteur, donc Jérôme Rothenberg, il s'y est installé avec toute sa famille et il y a vécu pendant 2 ans après avoir passé toute sa vie à New York. Donc ça fait quand même une grosse différence
un gros
de vie.
Choc, quoi.
C'est ça exactement. Et donc ils y sont restés 2 ans et il en a ressorti ces écrits-là, c'est-à-dire son journal en fait de toute cette période qu'il a passée avec les Indiens d'Amérique de cette réserve-là. Il faut savoir que Rothenberg, c'est un expert en coutumes, en contes, en traditions, en rituels du monde entier. Il a notamment
écrit. C'est un anthropologue ?
Non, en fait, il est, je dirais, ethnologue amateur.
Averti,
oui. Ouais, ouais. Et donc, il a écrit un ouvrage de référence qui s'appelle Les techniciens du sacré, où il analyse, il décortique et réécrit les légendes du monde entier sous son œil averti. Et il est l'inventeur du genre poétique qui s'appelle l'ethnopoésie. Donc c'est un mélange d'ethnologie et de poésie comme on peut le deviner aisément. Et donc c'est un des plus grands poètes américains encore vivant de nos jours. Alors il arrive dans cette réserve et il passe l'initiation pour entrer dans la tribu des Indiens. Et il décrit ce moment dans un court texte, qui fait office de résumé du livre. Je vais vous lire ceci. « Je suis devenu castor en 1968. Richard Johnny John a été mon père. » La cérémonie qui s'est déroulée dans la maison longue a été très courte. Ils ont dit quelques mots en sénéca. J'ai reçu un nouveau nom. Je ne sais pas s'ils étaient sérieux, mais le nom était superbe. Ma femme et mon fils sont devenus grands et ronds. Elle a été nommée celle qui voyage. Il a été nommé le parleur. Quand je mourrai, mon nom retournera là d'où il est venu. Un Sénéca viendra le chercher. Voilà, donc c'est une expérience vraiment, vraiment mystique pour lui. Et donc, il va nous faire découvrir à travers ses poèmes, en fait. Très belle imitation de Castor, Ludo, j'adore. Ou de Canard, je ne sais pas.
On n'y allait pas encore là.
Je m'y suis entraînée là depuis quelques jours.
Ouais. On n'a pas vu.
Donc, ouais. L'auteur, il évoque dans son journal donc, les légendes, les épisodes quotidiens de la vie de la réserve, les animaux, les plantes, la terre, les astres. Rien n'est très clair et pourtant, c'est très visuel. Il y a des images qui viennent tout de suite en tête, toujours dans un espèce de flou. C'est vraiment mystique et magnifique. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Je vais vous lire deux petits passages.
Avec plaisir.
On est toutes oui.
Oui, je sais que vous ne m'écoutez pas.
Quand il a dit on est toutes oui, elle a dit oh, toutes si, on va reparler des tribus.
Alors.
Pauline va nous présenter une BD.
Sur la Shoah.
Oui, bah, c'est ça,
vous
c'est
allez
chose.
Voir ce qui nous arrive.
Oui. Oh non.
On va encore pleurer.
Et si.
Refais péter un coup de calumet, s'il te plaît. Oui.
Très bien, Héloïse. Allons-y.
C'est à moi.
Oui.
L'outre. Au nom de la maison longue le grand, conseil rabbinique des sages mammifères, mystique les barbes longues de Sion d'Amérique, j'ai vécu ma fin sous la terre, dans un soleil nouveau je gambade, triomphant tribal, Idis Castor, je vous mords et coupe les couilles, je survis. Voilà, donc ça c'est un poème en fait qui parle d'un combat engagé entre une loutre et un castor.
Voilà. Vous l'aurez bien compris, c'est la loutre qui gagne grâce à ses dents.
Non, c'est le castor.
Grâce
ouais.
à ses dents.
Il n'y a que deux dents le castor.
La loutre était un loutre en fait.
Ouais.
Et donc un autre petit poème qui est une prière en fait qu'il a écrite. Les vieux rêveront, des revenants se relèveront, dans des villes fantômes, ils mèneront caravane par le pays, poitrine nue, Dieu, d'un sous-matin, chaman, serpent dans ton royaume dernier, laisse en paix ma maison. Voilà. Donc on voit, il y a plein de poèmes très différents, il y a des petites histoires en prose, il y a des... Je ne sais pas s'il y a des choses très courtes, juste des mots comme ça qui se baladent. Donc c'est assez perturbant et finalement, on se laisse vraiment happer par tout ça. Et j'ai tout de suite commencé ces poèmes à les lire à voix haute. Le rythme est très particulier, comme vous l'avez vu. Et ça aide à appréhender en fait la musicalité, cette espèce de transe que nous offre Rothenberg. Et c'est vraiment remarquable. Ça m'a passionnée, ça m'a envoûtée. Je l'ai lu, j'ai relu, j'ai arpenté la réserve sur Google Maps. Et j'ai commandé les autres ouvrages de Jérôme Rothenberg. Donc je le conseille à tout le monde parce que c'est... On y entre vraiment aisément et on n'en sort pas facilement. Voilà.
Bien.
Les autres livres ne sont pas sur la réserve. Ça, c'était un passage
voilà,
de sa
ça,
vie.
Voilà, ça, il y a juste lui,
après,
là, sur la réserve.
Oui,
tout à fait.
Ouais. D'accord.
Ils sont dans sa réserve.
Ils vont être dans sa réserve. Ok, merci beaucoup, Héloïse. On va passer à Nico avec Les mains fertiles. Ça aurait pu être une chanson d'un célèbre chanteur stéphanois. Mais non, Les mains fertiles.
Tu parles de Rocheteau ?
Non.
Du Gaulle ?
Non.
Parce qu'il a la main verte, Joël Batz ?
Non.
Le retour.
Bon, à partir de maintenant, là, c'était Joël Batz dans toutes les émissions.
Ouais, c'est ça.
Là, c'est le fil rouge.
Elle est fan.
Je tiens toujours le livre à votre disposition.
Alors, en fait, quand j'ai cherché Les mains fertiles, en fait, je suis tombé sur plein de bouquins en fait qui traitent de la terre, des plantations, etc. Alors, ce petit bouquin, en fait, c'est un recueil, c'est une anthologie hein, aux éditions Bruno Doucet. Alors, Bruno Doucet, pourquoi je vous le cite ? Parce que c'est aussi celui qui a choisi de faire ce recueil d'anthologie sur la poésie. Il a pris donc 50 poètes, mais les 50 poètes très, très différents les uns des autres, un petit peu de toute l'Europe. Hein. Donc on retrouve du turc, du grec. La particularité de cet ouvrage, c'est que c'est écrit dans la langue d'origine. Donc il y a aussi de l'israélien, etc. Donc c'est écrit. Et on a en face la traduction. Donc après, voir si la traduction est vraiment très bonne. En poésie, c'est compliqué, ça, je trouve. Mais en même temps, bon, ça donne quand même un petit peu le style, le genre. La particularité de ce livre aussi, c'est que c'est un livre DVD. Donc quand il a fait ce travail, en fait, il a demandé à quelqu'un de filmer toutes les poésies qui sont à la fois dites et en même temps traduites en langue des signes. Voilà, parce qu'il est très branché sur la langue des signes. Donc je vous lis juste le mot de l'éditeur, qui me semble intéressant parce que ça résume bien l'esprit du bouquin. Ceux qui l'ont vécu vous le diront. Voir un de ses propres poèmes traduit en langue des signes procure une émotion incomparable. C'est parce que j'ai vécu cette émotion que j'ai souhaité devenir l'éditeur de la première anthologie de poésie en langue des signes française. Ce livre et le DVD qui l'accompagne donnent à lire, mais pas seulement, à voir et à entendre 50 poètes contemporains, donc c'est vraiment de la poésie contemporaine, venus de tous les horizons. Une mosaïque vouée à la polyphonie des cultures et des voix. Et c'est vraiment le cas, parce que quand on lit, bon, on porte toujours la même voix, mais par contre, quand on regarde le DVD, on voit vraiment des interprétations qui sont faites par des hommes, par des femmes. Il y a vraiment tous les styles. Et ça donne vraiment une autre façon d'entendre la poésie, parce que les respirations, les silences, tout ça, ne sont pas les mêmes. Donc une mosaïque vouée à la polyphonie des cultures et des voix. Les poètes de cette anthologie se trouvent reliés par une interprétation gestuelle devenue un acte poétique en soi. Et c'est vrai que quand on regarde, alors on écoute la poésie, on regarde la personne qui en fait est en train de déclamer la poésie ou de la lire, et à côté on regarde la personne qui fait le langage des signes. Et comme c'est en décalé, pas l'expression si vous voulez, mais le geste prend plus de temps que le texte. Donc on est décalé dans le temps, on est en retard en fait. Hein. Et quand on regarde ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'une poésie à l'autre, la gestuelle est vraiment très très différente. Et des moments en fait, on n'entend presque plus le texte, mais on se laisse porter par ces gestuelles qui sont magnifiques. Quoi. Et franchement, il y a des gens en langue des signes, je pense qu'il y en a qui doivent être très mécaniques, et d'autres par contre qui ont une finesse, c'est presque une chorégraphie en fait. Hein. Et c'est vraiment superbe, voilà.
Il faut qu'ils arrivent à faire passer l'émotion, enfin le rythme, est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est... Il faut qu'ils arrivent à le déclamer, ça, pour que le malentendant puisse le comprendre.
Oui, mais ils le vivent vraiment, c'est-à-dire que quand on le voit, même certains articulent et sont presque en train de dire la poésie, quoi.
Mmh. Ouais, le problème de ce genre de DVD, c'est que les trois derniers poèmes, tu les vois jamais, quoi. T'as lâché avant, j'imagine.
Bon, ça a été un petit peu mon cas, c'est-à-dire que j'en ai écouté une dizaine, mais je pense que c'est comme un bouquin, c'est-à-dire tu te le mets de temps en temps et tu y reviens. Là, j'aimerais y retourner un petit peu, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, mais tu ne peux pas te cogner une soirée complète avec ça, quoi. Je veux dire,
Oui, mais en même temps, est-ce que le but, c'était qu'une personne qui ne soit pas malentendante, toute seule chez lui, ait de son plein gré envie de lire ça. Mais
justement, c'est intéressant qu'une personne non malentendante...
Mais justement, pas toute seule. Et c'est ça l'intérêt de ce bouquin et de ce DVD, c'est qu'en fait, tu peux le partager à plusieurs. Il y a les entendants, il y a les...
Allez, les gosses, soirée poème.
Ouais. Ben, je les regardais.
Les poèmes langue des signes.
Je l'ai regardé avec mon fils qui est pas malentendant, mais qui va rester super longtemps non plus, quoi, je veux dire. Voilà, mais c'est sympa. Donc, les captations réalisées en studio ou alors de grands festivals de poésie, comme le Festival des Voix de Vives de la Méditerranée, hein, en Méditerranée de Sète, ou le Festival de Poésie de Saint-Martin-d'Air, voilà, ne restituent pas seulement l'expressivité des textes. Elles étendent aussi le territoire du poème aux dimensions du corps, révélant une langue au-delà des mots. Cette émotion rare, je souhaite aujourd'hui la faire partager. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, par exemple, il y a un petit texte, une petite poésie, donc c'est assez contemporain. Il y a par exemple celle de Djenebou Batilli, qui est une slameuse et une poète sourde. Pas kurde, courde, sourde. Hein. Voilà. Donc, un extrait.
Je vois pas le rapport.
Allez, non, il n'y en a pas.
Tu es sourde et tu es courde.
C'est ça? Ouais. Cri. La voix du ventre, les mains qui signent, oppression de l'ombre, mon cri sommeille et s'étrangle. Éruption solaire, tempête d'un cri qui explose. Voilà.
Tu peux nous le signer pour voir comment ça faisait ou tu as pas...
Non, j'ai pas appris la langue des signes, mais il y a de très très bons livres sur la langue des signes. Un autre, alors, qui se nomme, qui est celui d'un grec qui s'appelle Demetra Christodoulou. Voilà. Alors c'est écrit en grec, donc je ne pourrais pas vous le lire en grec, mais je peux vous le lire en français. Le jardinier. Je veux qu'on s'aime. Oui, je le veux. Je veux, mes amis, qu'on s'aime. Vendu et misérable, bandit de notre âme, vrai gouvernement de nos sœurs, ou frappé par toutes les eaux sales, ils ne veulent plus se voir. Mais le jardinier dit « L'étoile a des feuilles, le ciel est un grand arbre. Par lui, toute la flore du soir est sagement nommée. » Le berger dit « La mer est un loup. » Le marin « La montagne est un père. » Je ne sais rien d'autre que la neige, mais elle aussi, pour eux, s'appelle amour. Malheureuses femmes, anciennes amies, et les autres que je n'ai jamais vues. Hommes enveloppés d'une petite pluie, maison tiède en pleine infinie. Non, pas d'amour qui pardonne, être compatissant, quelle horreur. Donc c'est quand même très contemporain. Après, faut rentrer dans cette poésie. Mais la gestuelle amène énormément.
Ouais. Je préfère le castor. Voilà. C'est pas mal.
Non, mais ça va très bien avec ta voix, Nico.
Oui, c'est vrai.
Déclamation de poésie, ouais. C'est vrai. Hein.
Faudrait qu'il fasse du slam. Hein.
Ouais, je. Ouais.
Mais je fais déjà du slam.
Avec une lutte derrière. Ouais. Non, ouais, c'est bien. Donc, c'est 50 poètes. Il est sorti il y a longtemps, cet ouvrage,
non,
ou pas ?
Non, il est récent.
C'est récent. Hein.
2015, mais fin d'année, ouais.
Il y a le DVD avec. Tu achètes
voilà, le DVD.
Et ouais, on peut appréhender les deux séparément, ou c'est bien de lire le livre et de regarder le DVD ?
Moi, je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux lire le livre d'abord. Ouais. Enfin, lire comme ça, de façon épisodique, découvrir. Bon, il y a aussi. C'est écrit dans la langue, donc c'est intéressant de regarder pour ceux qui maîtrisent un peu, quoi. Puis c'est quand même très ouvert sur l'Europe, hein, sur le monde. Et après, de regarder de temps en temps le DVD, choisir une des poésies qui nous marque ou qui nous plaît, voir comment elle a été déclamée et comment elle a été transformée en langue des signes. C'est vraiment sympa.
Ouais, la première que t'as lue, ça doit être assez marqué. Parce que c'est court, c'est des mots forts, c'est...
Du coup, c'est des nationalités différentes. Il y a des nationalités qui t'ont plus attiré que d'autres sur des styles poétiques que tu connaissais pas forcément.
Non, par contre, j'ai retrouvé. Enfin,
j'imagine ça doit être extrêmement différent entre un Iranien et.
Quand je l'ai lu,
il y a un Polonais.
J'ai cherché plutôt des pays arabes. En fait, pour voir, puisque plutôt sensible à la poésie du pays arabe.
Et à la musicalité.
Et à la musicalité. Mmh. Et en fait, en les lisant, j'ai pas vu beaucoup de différence, en fait.
D'accord, voilà. C'est universel.
La poésie est universelle.
C'est beau.
Allez, on a reçu à peu près 58 SMS pour demander Pauline, elle arrive, elle est là.
Pauline, principalement de ses beaux-parents. Voilà.
On ne dira pas.
Christian Bobin, il est né en 51 au Creusot, en Saône-et-Loire, où il vit toujours. Alors, Christian Bobin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la solitude, il vit seul dans sa grande maison. C'est un peu le vrai poète qui... J'ai lu une interview fantastique de lui où il parle de la solitude pendant des heures et des heures, et à quel point c'est merveilleux. Enfin, c'est vraiment un personnage, c'est assez rigolo. Donc il a étudié dans sa vie la philo, il a travaillé dans une bibliothèque municipale, rédacteur pour une revue, enfin voilà, une vie classique, plutôt classique. Dans ses écrits, il fait de la poésie, évidemment, on est dans le thème, il est moraliste, il écrit aussi beaucoup sous forme de journal. Et alors j'ai trouvé plein de chiffres hallucinants sur lui, donc notamment qu'il était hyper prolifique, il aurait écrit une cinquantaine de recueils, alors j'ai trouvé que c'était absolument énorme. Mais a priori, bon, ça a l'air d'être ça. Beaucoup de textes très courts, c'est des petits recueils. Donc on est, voilà, du coup, dans le journal, dans le roman et dans la poésie en prose, beaucoup en prose. En 92, il a été vachement remarqué parce qu'il a écrit un livre consacré à Saint François d'Assise. Il est très religieux. Le Très Bas, qui a eu le prix des Deux Magots et le Grand Prix catholique de littérature. Donc Noir et Clair, il est sorti donc chez Gallimard en 2015. Là, encore un chiffre absolument hallucinant. J'ai trouvé dans un article qu'il avait été tiré à 25 000 exemplaires. Alors, ouais, tu valides
Alors oui, en fait, Christian Bobin, tout le monde ne le connaît pas, mais il a ses fans, dont je fais partie. Et donc c'est un peu le livre, l'auteur qu'on se passe sous le manteau, mais on le conseille vraiment vivement. Et ça se propage, il a de plus en plus de fans, il a de plus en plus de lecteurs. Et c'est une écriture magnifique. Moi,
c'est
Christian
énorme,
Bobin, je suis absolument fan.
C'est pour de la poésie, ouais. Pour n'importe quel ouvrage, et pour de la poésie encore plus, c'est du délire. C'est... Donc, incroyable. Donc, c'est vrai. Merci de confirmer. J'ai cherché d'autres sources. Je me suis dit, c'est pas possible. D'accord. Donc, c'est voilà. Donc, Noir et Clair, c'est un recueil. C'est plein des petits fragments, des petits textes qui représentent des petits moments, des états d'esprit, des petites pensées qu'il peut avoir. C'est son style vraiment de prédilection. C'est a priori comme ça qu'il écrit souvent. Donc c'est noir et clair. C'est d'un côté très noir.
Et très clair.
Alors, je vous explique d'abord le côté noir, on en viendra au clair après. Donc noir, ça commence déjà par une dédicace pour Ghislaine, ce livre hanté. Donc Ghislaine, c'est...
Ouais. Un fantôme.
Ouais. Il n'aime pas Ghislaine.
Et non, si, il l'aimait au contraire beaucoup.
Oui, mais il aime plus.
Avant de la pousser du haut de la falaise, il l'aimait beaucoup.
Ouais. C'est une amie qu'il a perdue il y a une vingtaine d'années, donc à qui il pense évidemment toujours, pour qui il a déjà écrit un recueil d'hommages. Le titre est superbe, je trouve, La plus que vive. Je trouve que...
C'est un très beau livre.
Oui, bah ça ne m'étonne pas. Le titre, déjà, est...
Ah, mais je suis sûre, franchement.
Héloïse a la larme à l'œil, rien que le titre.
Ouais. Mais du coup, j'ai peur de te décevoir dans ma chronique.
Non, mais en plus, ce dernier, je ne l'ai pas lu, donc j'attends de voir ce que tu en as pensé. Ouais.
Du coup, voilà, parfois, dans ce recueil, il s'adresse directement à elle. Il lui dit, bon, bah, je t'écris pour t'emmener plus loin que la mort. Il nous fait vivre voilà, tous ces moments, toutes ces pensées qu'il a autour d'elle et qui la ramènent à elle. Et là, sur ces côtés noirs, on ressent vraiment le manque, la souffrance qu'on peut ressentir. C'est la douleur quand un petit objet, un bruit, une odeur, parce qu'il ramène souvent à des sensations, va nous rappeler une personne qui a disparu. Et la douleur aussi vraiment d'être celui qui reste. À un moment, il dit « les ténèbres sont de notre côté, pas du tien ». Et là, on le ressent vraiment à cœur.
J'ai encore tapé dans le mille.
Voilà, on part dans le thème.
Soyons optimistes, il y a Claire qui arrive.
Voilà, j'ai gardé Claire pour après, pour nous remettre un peu dans l'humeur. Parce que Claire, il le fait très bien aussi. C'est très joyeux. Alors, il nous parle de la joie, de la gaieté, de l'émerveillement, de tout ce qui fait que la vie est belle, malgré toutes ces peines, toutes ces douleurs qu'on a, malgré la mort aussi. Alors, il y a quelque chose quand même, moi, que je reproche à ces passages clairs, c'est qu'ils sont parfois un peu peut-être gnangnan. Voilà.
Un peu fleur bleue, un peu.
Voilà, un peu fleur bleue. Il parle, voilà, les moineaux vont sur terre par bond. Il y a beaucoup, voilà. Mais c'est tout à fait le personnage, encore dans une interview, qui m'a fait beaucoup rire. Le journaliste lui demande les vrais trésors d'aujourd'hui. Et donc, il parle d'un plâtrier qui siffle et à quel point c'est un moment incroyable de voir que à quel point la vie est belle quand on fait du plâtre. Enfin, c'est quelqu'un qui s'émerveille de tout, mais qui l'assume complètement.
Non, il va prendre.
Et qui vient de chez moi.
Une galache de plâtre dans la gueule, il ne va pas comprendre. Non.
Et Nico qui vient de chez moi, hein, s'il fait du plâtre, hein, si ça lui plaît. Hein.
Oui, mais des fois, il a des côtés noirs, Ludo, je te rappelle.
Voilà. Ouais. Sur les côtés noirs, par contre, là, pour le coup, j'ai vraiment ressenti la souffrance. Sur les côtés clairs,
ça m'a solitude,
plutôt...
Et sa solitude, non, un peu.
Ouais, sa solitude.
C'est mais... ça qui se dépeint là-dedans, quand même.
Ouais, hein. Mais une solitude qui a l'air très choisie. Hein. Il aime s'isoler, il aime cette vie coupée du monde.
Finalement, il n'est jamais seul parce qu'il est très croyant et Dieu est très présent dans sa vie aussi. C'est ce qu'il explique aussi, c'est que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement croyant.
Ouais.
Ça ressort dans ses poèmes, cette croyance
Alors, dans ce recueil-là, assez peu.
Assez
moi,
peu.
Après, je n'ai peut-être pas la culture religieuse qui fait que je l'ai ressenti, mais non, a priori, pas trop.
C'est quel dieu qui vénère ?
Il est catholique, ouais.
Je disais.
Tu le conseilles ou pas, du coup ? Qu'est-ce que tu en retires ?
Ouais, je le conseille parce que bon, je l'ai lu une première fois. Je pense que ça se lit. Ah bah oui, ça se lit par petits bouts. Il y a pas fort. Ouais, par fragments.
Le temps de chialer un peu et hop.
Mais voilà, il y a plein de, il y a vraiment plein de sensations. Et voilà, ce côté mièvre un peu dont je parlais. Malgré tout, ça m'a fait sourire. Donc j'ai vraiment ressenti quelque chose. C'était voilà, tu sens ça, c'est un petit peu sa gaieté, son. Il aime la nature, il trouve ça beau, il s'émerveille de plein de choses et finalement, lui, son travail de d'auteur, il le dit, c'est de faire ressentir les choses, de partager ses émotions et il le fait très très bien. Et l'écriture est belle et l'écriture est simple, elle est très accessible et ça je pense que c'est vraiment un plus parce que voilà, comme tu le disais tout à l'heure, on voit la poésie un peu comme quelque chose d'inaccessible, mais là pour le coup, c'est pas le cas du tout. C'est très facile à lire et très agréable à lire. C'est des sensations qu'on a tous et lui il les met sous forme de poème et ça nous touche, ça touche tout le monde, je pense.
Mmh. Par contre, un peu gnangnan des fois. Ça, je supporte pas.
Non. Voilà. Moi, il y a.
Ça dépend de ses livres après. Donc celui-là, je l'ai pas lu, mais c'est vrai que oui, il peut y avoir un côté comme ça, un peu naïf. Ouais. Oui,
ça dépend voilà. Comment on le ressent aussi.
Oui, oui, non, tout à fait. Mais pour ceux qui
parce
veulent
que,
découvrir
c'est parce
Christian
que c'est
Bobin,
simple, c'est ça qu'on le ressent comme naïf.
Oui, je sais
c'est
pas.
Ça je sais pas c'est... si c'est parce que c'est
la
simple.
Phrase est simple. La phrase est simple.
Non, non.
C'est les plus les images.
Oui, l'objet de l'émerveillement, tu sais, assez d'accord, commun. Bah voilà, je citais tout à l'heure les petits moineaux. C'est pour ça que ça m'a fait sourire, c'est que...
Le castor sur l'eau, s'approche de la loutre.
Le reflet de la queue du castor sur l'eau.
Mais non, mais c'est extrêmement touchant. Il y a des moments pleins de nostalgie qui nous touchent vraiment. Donc oui, 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 je conseille. Et je conseille de l'avoir, voilà, à côté du canapé, à côté du lit, pour l'ouvrir de temps en temps et lire des petits passages. Oui, oui, je le conseille vraiment.
Il faut dire aussi que pour la poésie, je trouve que souvent les livres sont rangés dans les maisons. Et en fait, il faut apprendre à les déranger, quoi.
Oui.
C'est-à-dire à les avoir empilés sur un coin de table basse et les laisser là.
Oui, pouvoir les juste prendre, avoir à tendre le bras.
Parce que faire l'effort, des fois, d'aller dans la bibliothèque, de retrouver...
Je suis allé chez Valérie, c'est pas rangé.
J'ai plus de place dans la bibliothèque.
Non, mais je parle souvent chez les gens, c'est-à-dire que les
oui,
livres rangent
raison,
les livres, quoi,
oui.
Tu vois. Et en fait, un livre, il doit être à portée de main. Et surtout
moi,
de la poésie.
Ils sont tous sur mon balcon.
Surtout de la poésie, parce que si elle est rangée, tu y retournes pas facilement, quoi. Mmh. Voilà.
Non, non, j'ai vraiment eu envie de noter plein de petits passages très chouettes. Je voudrais juste en citer un autre.
Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas lu.
Est-ce que c'est vraiment... Bah, c'est des petits fragments. C'est pour ça que je vous les ai cités un peu comme ça dans la chronique. Oui. Parce que...
Non, non, on
mais
en
voilà.
Entendre un.
Une petite dernière pour rendre hommage à Ghislaine. Hommage à Ghislaine. Hein. C'est « Ta mort est juste derrière ta joie ». Et je trouve que c'est très beau. Vraiment très, très beau. Voilà.
Très bien. Il finit par dire merci, au revoir sur son dernier poème. Ok, super Pauline, je fais vite parce qu'il faudrait faire une pause musicale. Pendant ce temps, tu peux réfléchir sur la chanson à passer, si tu veux, Héloïse.
Et pourquoi on n'a pas décidé déjà?
Ça, là, si, mais tu m'en as donné 15. Non, mais parce qu'elle me fait des propositions.
J'en ai donné 3, toujours dans l'exagération. Ouais,
tu as le choix entre Chet Doud ou Polyester.
Mais tu passes les 3 en même temps.
D'accord. Voilà, donc on parlait de livres qui peuvent être parfois un peu gnangnans, donc je vais commencer par lire un poème du livre que je vais vous présenter. Non, parce que c'est pas du tout gnangnan, justement.
Ah.
Merci. Un livre bleu sans chapitre, sans page, où flottent des mots, cousus, décousus, des barques de papier, des larmes de luxe, et ce sourire qui cisèle tes lèvres, ce sourire si rouge, si passion, si midi, si sang, qu'on dirait la fleur jamais éteinte du Poissanter. Alors ce livre, Ernest Pépin, c'est un Guadeloupéen qui doit être assez âgé maintenant, non, pas plus que ça, qui est né en 1950 en Guadeloupe.
Ernest, si tu nous écoutes.
Voilà, je disais ça parce qu'il a eu beaucoup de métiers avant de devenir écrivain. Il a été critique littéraire, il a animé des émissions littéraires sur France 3, il a été en politique, il a été consultant à l'UNESCO, directeur adjoint du Conseil général de Guadeloupe, directeur des affaires culturelles, etc., etc. Et avant de devenir un écrivain reconnu et un poète reconnu, Boucan de livres, par exemple, qui a été un recueil qui a été aussi publié en espagnol et qui a eu le prix Casa de las Américas, que tout le monde connaît. Mais c'est son premier roman, L'homme au bâton, paru en 1992, qui lui apporte la reconnaissance, suivant Tambour Babel, sélectionné pour les prix Goncourt et Renaudot, Le tango de la haine, tous deux romans publiés chez Gallimard, etc., etc. Il puise bien entendu son inspiration de son île natale, la Guadeloupe, où il y a beaucoup d'inspiration dans les îles, avec toutes ses couleurs, toutes ses tranches de vie. Donc il alterne entre poésie et prose créole, donc là c'est juste, il n'y a pas de prose créole dedans. Il s'est bien sûr affirmé comme une plume majeure de la Guadeloupe et de la Caraïbe, il a été couronné donc à plusieurs reprises par des prix. Il a été nommé au grade de chevalier des arts et des lettres par le ministre de la Culture et de la Francophonie, puis chevalier de l'Ordre National du Mérite. Et en 2007, il est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Donc ce dernier recueil, le bel incendie, tu parlais tout à l'heure, Valérie, de géographie, de ville. N'est-il pas ? Eh bien, dans ce bel incendie, le poète chante une femme. Et à travers cette femme, c'est l'Odyssée des nations, de l'Afrique, de l'Inde, de l'Europe, que au final ce poète célèbre. Il célèbre également l'humanité. On voit que ça lui est cher, comme la nature, la diversité. Voilà, c'est des thèmes chers à ce poète. On comprendra certainement pourquoi. Donc Cette femme, c'est une femme d'embrun brûlé, c'est une femme plus tendre que le cœur du déluge, c'est une femme coquillage, c'est une femme monde. Ernest Pépin, en fait, chante tout le monde à la croisée des vents. Ça, c'est son éditeur qui le dit. Avec lui, chaque être est une île, l'île est un volcan et le volcan, le monde. C'est très, très doux, c'est très reposant, c'est très beau. Donc, une belle découverte, Héloïse. C'est très, très beau comme littérature. C'est un petit livre.
On dirait que ça t'a plu, oui.
Oui, vraiment. C'est aux éditions Bruno Doucet. Donc, voilà, je vais vous lire un autre ou deux autres poèmes. Femme d'embrun brûlé, de bourgeons d'étoiles qui crayonnent les cyclones, la monture des marées, et par ravine chaude où sommeille ta chaleur, redonne au monde le bel incendie, la première étincelle, la parole inconsolée des mythes. Voilà, c'est très beau, c'est très imagé, voilà. Donc à conseiller, le bel incendie, Ernest
Pépin.
C'est
un petit livre, en fait.
C'est un tout petit livre, voilà, ça se lit vite, on peut prendre au hasard. Il y a des poèmes un peu plus longs que d'autres, mais c'est très beau, on voyage et c'est très poétique. C'est le but des livres, des recueils de poésie.
Et ça t'a donné envie de lire ces romans, des choses comme ça ?
Oui.
Et tu vas le faire ?
Oui.
Tu nous feras un résumé ?
Non. Non. Non, mais il faut faire attention entre les écrivains entre les poésies et le roman. Souvent, on peut être déçu des romans de poètes et vice-versa. Ouais, donc, je me méfie toujours, mais je pense que ces romans... j'ai lu le synopsis d'un de ces romans, ça ne m'a pas plus emballé que ça, celui qui a eu plein de prix. Ouais. Donc après, aussi, bon, s'il a eu autant de prix, il doit être très bien, mais...
Maison des Américains.
Héloïse, qu'est-ce qu'on choisit ?
Le premier.
Le premier.
Le premier que tu as dit, je ne me souviens plus du nom.
Chill Dude.
Yes.
Allez, c'est parti.
Tell me that I need you.
Et voilà, excellent groupe, Héloïse, tu connais d'où?
D'un site internet qui s'appelle Le Tourne-Disque, où je fais plein de belles découvertes.
D'accord.
Voilà.
Eh bien écoute, il faudra nous les donner.
Bah oui, tout à fait, quand on me censure pas.
Peut-être pas besoin de t'excuser après d'avoir passé un titre qui soit pas...
Ah d'accord, c'était la musique qui continuait, je me demandais quel c'était ce bruit.
Très Et bien. On nous a entendu quand même.
Bien sûr.
Ouais, d'accord.
D'accord, c'est qu'il y avait un fond musical pour finir le morceau, et j'entendais des grésillements, mais...
Bon, c'est une bonne transition, ça va.
Exactement, parce que tu vas nous présenter...
Parce que oui, parce que je vais vous présenter un livre, un recueil de poésie de René Guy Cadou, qui s'appelle « Comme un oiseau dans la tête ».
Qui ne connaît pas René Guy Cadou?
Moi, je connais pas.
Connais pas.
C'est pas vrai.
Voilà, bah Nico connaît. Moi, parce qu'il était un site, enfance, je pense.
Ouais.
Et oui.
Mon ancien voilà. métier d'instituteur m'a amené à lire du René Guy Cadou. Mais en tant qu'enfant aussi, j'ai vachement appris de poésie de René Guy Cadou.
À l'école, ouais, c'est vrai que...
Ah ouais, j'avais des enseignants qui étaient...
Mais c'est un bon ou un mauvais souvenir, du coup?
Non, c'était un bon souvenir, ouais. Bon, d'accord. La poésie à l'école, pour moi, c'était un bon souvenir. Bon,
est-ce que tu t'en rappelles?
De René Guy Cadou?
Non, d'une poésie que tu as appris.
À l'école?
Oui.
Ouais, le cancre, des choses comme ça. Du Prévert, plutôt.
Oui, ça t'a marqué, le cancre.
Mais ouais, il faut dire qu'il devait l'écrire tous les week-ends dans la position.
Tu me le copieras 50 fois. Au piqué.
Je vais vous parler un peu donc de ce cher René, parce que c'est important.
René.
Non, on parle pas du même, là, attention. On parle de René Guy. Donc ça va, enfin, on va parler de ça. Je vais vous parler de sa vie un petit peu, parce que ça va permettre d'aborder les thèmes principaux, en fait, de sa poésie, parce que c'est une poésie très intimiste, une poésie de l'intérieur, une poésie... voilà, qui aura un rapport beaucoup avec sa vie. Donc il disait « Un vigneron ne parle bien que de sa vigne, ses cépages, ses hybrides, ses gamets. La poésie est comme la vigne, c'est une question de plan, d'orientation, de terrain, d'amour et de soins constants. J'habite un coteau ensoleillé, assez loin des officines littéraires, pour me passer des satisfécites, des snobs et du personnel de la critique. » Voilà. Donc on ne parle bien que de sa vigne, on ne parle bien que de soi finalement, quoi. Et donc le petit René, il naît en 1920, il est fils d'instituteur et une profession qu'il exercera lui-même également. Il a passé toute sa vie en Bretagne et dans les écoles de Bretagne, puisqu'à l'époque les instituteurs habitaient dans l'école.
Ils avaient un logement de fonction, ouais.
Voilà, exactement, au-dessus de l'école. Donc voilà, il a habité étant petit et en étant instituteur également. Donc l'enfance, c'est un grand thème chez René Cadou, tout comme sa région, il parle beaucoup de la Bretagne. Il perd ses parents assez tôt dans sa vie et l'écriture sera comme un antidote à la tristesse et à la dépression. Quand il finit de donner ses cours à l'école maternelle ou primaire, il s'empresse de rejoindre son bureau pour écrire. Ou alors il rejoint un groupe d'amis poètes bretons et pour parler de poésie. Mais c'est plus qu'une passion chez lui, c'est vraiment un mode de vie et il pourrait pas s'en passer. En 1943, il rencontre l'amour de sa vie et sa grande source d'inspiration qui s'appelle Hélène et non Céline. Il décrit ainsi leur rencontre. Il faut que je retrouve la page, page 9.
Et en attendant, je vais poser une question.
Oui, voilà, c'est bon.
Tu le connaissais, toi, qui est de Bretagne?
Non, pas non. du tout, ouais.
Merci de le rappeler, parce que je me
de rien.
Non, je voulais poser la question à Pauline.
Est-ce qu'il pleut tout le temps en Bretagne, Pauline?
Non, c'est faux.
C'est faux.
Ah, donc les collines ensoleillées où tu disais qu'il habitait, ouais, René Cadou, tu pensais à ça, toi aussi?
Exactement.
Elles existent bien.
C'est pas un mythe.
Et du coup, j'attends le castor tout le temps.
Oui, bah oui.
Et il me mord la pomme, tu vois, c'est comme ça. Mais ça ne vient jamais.
Non, il a dit que c'était pour enfants.
C'est bon, enfant. Laissons-la parler de
René. La rencontre avec Hélène, donc l'amour de sa vie. Ce fut par un matin semblable à tous les autres. Le soleil agitait ses brins de mimosa. Tout le jour, je vis bleu et ne pensais qu'à toi. Tu ruisselais déjà le long de ma poitrine. Sans rien dire, je pris rendez-vous dans le ciel avec toi pour des promenades éternelles.
C'est beau.
Oui, c'est très, très
ouais,
beau.
C'est chouette quand même.
C'est une déclaration c'est pas d'amour, mal.
Ça parle de leur rencontre, donc oui, mais c'est une déclaration d'amour pour Hélène Perpétuelle. Il a écrit pour elle toute sa vie. C'est pas un poète de l'amour, René Cadou, c'est un poète juste de l'amour d'Hélène. Il a aimé qu'elle dans sa vie. Donc c'est très beau. Et donc suite à cette rencontre, Cadou est assez apaisé. Il mène une vie simple avec Hélène, ses amis, entre des repas champêtres, l'écriture, les cours, les élèves. Il n'est pas pour autant coupé du monde dans sa Bretagne lointaine. Il écrit beaucoup sur la guerre et sur ses conséquences. On peut même dire qu'il était un homme engagé sans être pour autant un homme d'action. Le dernier sujet important dans la vie de Kadou, c'est Dieu. Il se sent très proche de Dieu. Il le tutoie dans ses poèmes. C'est presque un ami. C'est... Voilà, donc c'est Dieu également. Je vais citer donc une phrase de Philippe Delerme qui a écrit la belle préface de ce livre que je trouve assez représentatif du poète. Donc c'est page 8, je retrouve...
Le buveur de bière de Delerme.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et donc là, ça rejoint ce que tu disais, en fait, Nicolas. Tu disais, ah, Kadou, je connais, ça me ramène 40 ans en arrière, etc. Et Delerme dit, on verra souvent Kadou comme un poète de l'école ou un écrivain régionaliste, comme si la fidélité aux origines était réductrice pour ceux qui ne savent pas entendre la singularité d'une voix, l'universalité d'un chant. Voilà, donc
c'est très beau, même si on peut l'avoir appris
à l'école, même si il n'y a pas que ça chez Kadou. Je sais pas, est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps.
Non, tu n'as pas le temps.
Reniguer Kadou. Non, mais ça, c'est des classiques.
Moi, j'ai adoré lire Kadou, je m'y replongerai régulièrement et ça m'a fait du bien et je remercie le client qui m'a conseillé fortement ce livre-là. Voilà.
Oui, mais c'est pas parce que c'est un classique ou c'est appris à l'école que c'est forcément...
Mais de
toute façon, les enseignants, ils vont chercher dans des choses qui sont de bonne qualité. Hein. Faut pas...
Ouais. Ah, j'espère, oui.
Bah ouais, en général, quand même. Non, mais bon.
Alors, 13h22, il va falloir faire des choix, les amis.
Je suis désolée, j'étais trop longue.
Non, pas du tout. Non, non. Allez, moi, je vais laisser tomber ma chronique sur la poésie qui a changé la face de la société et de la culture américaine. Ce n'est pas grave. Nico, tu as deux poésies, donc tu en choisis une. Pendant ce temps, on va laisser parler rapidement Pauline et Valérie. Valérie, d'abord, toute personne qui tombe a des ailes.
Vas-y. Ouais, alors, de façon très courte, parce que ce n'est pas du tout un coup de cœur.
D'accord. Voilà. Bon, mais sinon, on n'en parle pas. Hein.
Voilà, mais c'est bon.
Si en plus on supprime des trucs qui sont vraiment sympas pour des trucs.
Non,
qui
c'est parce que ça m'a pas plu parce que j'ai lu d'abord Pascal Rebetes, donc qui était un ovni, enfin comme je dis un ovni. Et là, donc Ingeborg Bachmann, c'est une poète donc autrichienne qui est née en 42, qui est décédée donc en 67. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose de plus classique. On revient à la littérature telle que justement on l'a appris au lycée. Donc, ça m'a moins fait rire, ça m'a moins. J'ai pas eu une grande découverte. Ceci dit, elle mérite quand même. Il y a une chose qui m'a vraiment plu dans ce recueil de poésie. Alors, c'est absolument pas le fait que ce soit traduit, enfin, qu'il y ait l'allemand sur la page de gauche et le français sur la page de droite, vu que je ne parle pas un mot d'allemand. C'est que dans son recueil de poésie, donc, il est chronologique. Le titre, donc, Toute personne qui tombe a des ailes. Et il y a des poèmes qui sont courts, qui sont agréables à lire, mais on va être sur du poème de lycée. Voilà, vraiment très clairement du poème à apprendre, très classique. Et par contre, il y a des pièces de théâtre à l'intérieur. Ah. Et il en a fallu ça pour me séduire, notamment un monologue du prince Mishkin pour l'idiot, un pantomime ballet qui je pense mériterait d'être mis en scène parce que le texte est super sympa.
Et tu y réfléchis du coup toi personnellement à...
Moi j'ai mis
à le faire.
J'ai mis en scène une fois quelque chose, ça a été une catastrophe. Donc je pense qu'on va arrêter le massacre là. Voilà, donc voilà, il y a des poèmes très bien et ce pantomime là qui arrive là au milieu de ces poèmes très très structurés, très très carrés, très classiques. Voilà, donc ça méritait quand même d'en parler 2 minutes 30.
C'est
un très bon auteur, mais c'est classique.
C'est trop éducation.
Pour moi, ça me donne scolaire. Pas forcément envie de le relire, mais par contre, je pense que ça mérite d'être un petit peu connu. Voilà. Ce que j'avais à en dire.
Très bien, rapidement également, car tout le monde le connaît, mais il faut le citer dans cette émission, c'est important, Pauline.
Eh ben ouais, Prévert, c'est tellement important qu'on a été deux à se retrouver avec Prévert aujourd'hui, parce qu'on communique bien avant l'émission en plus, c'est vachement bien. Donc voilà.
Mais c'est des bonnes surprises.
Bah ouais,
ça prouve que Prévert, voilà, c'est.
Ouais.
C'est intemporel, quoi, c'est la base.
Ouais, je sais pas pourquoi toi tu l'as choisi, mais moi c'est parce que je pense qu'il parle vraiment à tout le monde.
Ouais.
Si on aime vraiment la poésie, on va se retrouver dans Prévert. Si on n'aime pas la poésie, on va se retrouver dans Prévert. Si on aime la politique, si on aime la nature, si on aime les enfants, tout. Il aborde tous les sujets, il est à la fois engagé, à la fois émerveillé, hein, comme Bobin. Il a des moments pour tous. C'est le vrai poète de tout le monde, je trouve. Et je voulais en parler parce que je pense que c'est un bon accès à la poésie Prévert avec parole, notamment.
Donc, oui, qui est le recueil. Hein,
oui.
Incontournable, qu'on étudie aussi beaucoup à l'école.
Bah avec le cancre dont tu as parlé.
Oui, le cancre est très très étudié.
Ouais. Ouais.
Alors qu'à une époque, le cancre n'était pas du tout étudié, il était justement banni des établissements parce que ça donnait une. Enfin, il ne fallait pas en parler, quoi.
Voilà, ah bah on l'aime bien en plus, ce petit cancre-là qui est dans.
Mais il y a beaucoup d'enfants, en fait, quand tu fais lire ça à des enfants, il y a des enfants, alors pas qui se reconnaissent, mais des enfants qui sont marginaux et qui sont souvent en échec scolaire. Ouais. Le fait de lire une poésie qui parle d'eux quelque part, où ils se reconnaissent un petit peu, c'est une façon de se dire, bon, ben, quelqu'un d'illustre comme Jacques Prévert a pris notre défense, parce que quelque part, quand on lit le cancre, c'est ça, quoi. Oui. Quelque part, c'est pas un sous-homme, c'est pas une sous-personne ou quelqu'un qui comprend rien à la vie. Au contraire, il a cette folie.
D'ailleurs, chez Gallimard, il y a un livre qui est sorti qui est l'Encyclopédie des cancres et qui recense en fait toutes les personnes comme Einstein,
Tu nous l'avais présenté.
Ouais. Ah ouais, ça avait l'air génial.
Alors, j'ai découvert des gens qui n'étaient pas du tout Prévert, notamment des poètes ou des gens qui lisent des comédiens et qui abordent Prévert.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Non, mais il y a de tout, heureusement.
Notamment l'Auxerrien, je ne citerai pas de nom.
Heureusement que tout le monde n'aime pas tout. Hein.
Bien sûr. C'est pas les limiter, moi, je voyais ça universel.
Bah oui, un peu, ouais.
Culture française.
Comme les Beatles, il y a des gens qui n'aiment pas les Beatles.
Pourquoi?
Non, mais sur 10 personnes, t'as 8 personnes qui aiment Prévert, quoi. C'est pas forcément le cas de Ingmar Bergenhoff, là.
Ingmar Bergman.
Bergamoff.
Voilà,
d'ailleurs, j'ai parlé du livre, mais j'ai pas dit.
T'en as deux qui aiment.
J'ai parlé du livre, mais j'avais pas dit que c'était Ingeborg Bachmann.
Ouais, c'est pas beau, l'info, on voulait pas le dire, mais bon. Voilà.
Personne n'avait encore porté plainte, j'avais pas d'excuses à formuler pour la prochaine émission. Franchement.
Mais rentrez, monsieur adjoint en charge de la culture à la mairie de Mende.
On va lui demander quel est son auteur de poésie préféré.
En plus, on a un petit hommage à lui faire à la fin de l'émission.
Allez, c'est la fin de l'émission. Rentrez, venez, prenez place. Nico, c'est la fin d'émission?
Non, pas déjà.
Mais si, c'est 1h28, il nous reste 2 minutes.
Oh
donc,
là. Moi, je voulais vous parler d'un truc fabuleux.
Mais t'as dit que ça prenait 2 secondes.
Gaston Coutet. On n'aura pas le temps. Mais c'est super dommage.
Et t'avais pas une chanson à passer?
Franchement, à lire Gaston Coutet.
Parce qu'il a 3 livres, Nico, là, il est prolifique.
Ouais, non, mais franchement, il faut que je vous lise ce poème. Après, Non, mais je vais vous lire qu'un truc. Non, mais il faut que je le fasse, celui-là.
Vas-y.
Si tu veux pas parler d'autres, vas-y.
Si, je vais parler d'autres, c'est indispensable. L'autre, c'est indispensable. En plus, c'est pour notre invité.
D'accord.
Donc, c'est le
notre invité, il s'est invité tout seul. Mais.
Dans Gaston Coutet, il y a. Donc, Gaston Coutet, c'est quelqu'un qui est né en 1880, bon, qui a été beaucoup interprété par Édith Piaf, par de grands chanteurs. En fait, c'est quelqu'un extrêmement connu, qui a écrit énormément d'œuvres, qui a participé à des journaux, beaucoup des journaux anarchistes où il écrivait ses poèmes, qui ont été extrêmement lus, etc. Bon. Mais il a écrit de très très beaux poèmes, dont un que j'ai appris quand j'étais enfant. Et que je voulais, en fait, c'est un des premiers textes qui m'a raccroché à la poésie, qui m'a fait aimer la poésie, et je sais pas pourquoi. Ça s'appelle La tête de mort. Faut savoir que c'est écrit dans le coin de la Beauce. Donc, c'est un gars d'un petit village qui est très lié à la terre et qui écrit aussi dans le patois local. Il dit donc, ça s'appelle la tête de mort. Un jour, en retournant la terre d'un coin de ce champ, où jadis se trouvait l'ancien cimetière qui reçut les vieux du pays, en retournant la terre nue au creux d'un sillon noir et d'or, soudain, une tête de mort buta dans mon soc de charrue. Et prenant dans ma main calleuse afin de mieux l'examiner, cette tête à grimace hideuse, sans lèvres, sans yeux et sans nez, j'ai rêvé de filles jolies aux lèvres donneuses d'amour, aux yeux clairs comme un ray de jour, pour qui j'aurais fait des folies. Voyant ce crâne à l'ossature toute blanche, dont le cerveau aurait servi de pâture aux vers qui vivent des tombeaux, là, j'ai rêvé d'un bourgeois très riche, gros de ventre et fort d'appétit, dont j'aurais servi comme outil à faire le boire et la miche. Et jetant à travers la plaine, selon mon désir, n'importe où, cette chose qui fut humaine, comme on jetterait un caillou, j'ai rêvé d'un grand capitaine qui m'aurait emmené mourir ou faire mourir pour servir son œuvre de gloire et de haine. Mais retrouvant soudain la tête, reposant en l'ombre d'un pré, comme vont reposer mes bêtes quand mon champ sera labouré. J'ai rêvé du travailleur blême pour qui l'existence est un poids, d'un pauvre bougre comme moi, mort comme je mourrais moi-même. Voilà.
Très
Gaston
beau.
Gaston Couté. Alors, il en a écrit
ce poème
de très, 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 très beau poème.
J'ai fini l'introduction.
Tu as récité ça quand tu étais petit devant toute la classe.
Voilà. En fait, je l'ai appris et ce poème m'a énormément plu. Et je ne sais pas vous dire pourquoi.
C'est marrant.
Il y en a un qui s'appelle...
Imaginez que c'était qui, la tête de mort.
Ah ben voilà, c'est ça l'idée, quoi. Ouais. C'est... Il faut lire aussi Les Mains Blanches, voilà, qui est très, très beau. Très, très beau. Alors, pour finir, juste, je voulais vous parler d'un... Parce que pour attraper...
Oui, on est une radio associative, on peut dépasser...
L'idée... Non, mais ça, c'est très important. C'est pour faire le lien avec la musique et le fait qu'on soit une radio aussi assez ouverte sur ce domaine-là. Dire que la poésie, c'est aussi des paroles qui peuvent être chantées, pas forcément que lues. Et il y a notamment à la fois un poète, auteur et musicien qui s'appelle Rodrigo Amarante. Donc notre invité là connaît très bien, voilà.
Il a produit d'ailleurs.
Pas son portable, Jean-François.
Je voudrais lui dédier un petit peu cette poésie et en espagnol d'ailleurs, il va nous la dire parce que moi je parle très mal l'espagnol. Allez.
Jean-François.
Voilà. Donc il va le dire en espagnol et je vous ferai la traduction à peu près en français après.
Bien, bien Nico.
Tu peux le signer en même temps.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Et la chanson s'appelle Tuyo. En fait, c'est pour la petite histoire, c'est le fils de Nicolas qui me l'a fait découvrir. Donc, je rends hommage à mon ami Pablo. Il doit m'écouter avant d'aller en cours. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro. Yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansio mojar. Que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo. Tuyo será y tuyo será.
Je suis le feu de ta passion, je suis l'eau de tes désirs. Non mais vas-y Nico, traduis.
En fait, c'est je suis le feu qui brûle ta peau, je suis l'eau qui quitte ta soif, le château, la tour, je suis l'épée qui garde la fortune. Tu es l'air que je respire et la lumière de la lune dans la mer. La gorge qu'elle a désirée mouillée, que j'ai peur de noyer d'amour. Mais quel désir vas-tu me donner ? Et toi, tu dis, il suffit de regarder mon trésor. Soyez le vôtre, et le vôtre sera. Et il en a fait une chanson qui est la musique introductive de la série Narcos.
Narcos. Qu'on écoute en fond, là. Mais super, Nico. Et,
Rodrigo Amaral.
Voilà.
L'amour et la mort, deux thèmes très présents en poésie. Hein.
Ouais. C'est ça, tu as pas un ouvrage à sortir de cet écrivain. Il faut tout lire de ce poète. Tout est bon.
Non, je sais pas, il faut découvrir déjà ce qu'il écrit et ce qu'il chante, quoi, parce que c'est assez exceptionnel, mais c'est de la poésie, vraiment.
C'est lui qui chante, là ?
Oui, c'est lui qui chante.
Ah, bien, super. Merci beaucoup, Nico. On va pas rappeler tous les livres, on les mettra sur les réseaux sociaux. On va se poiler, Héloïse, dans les 15 jours.
Oui, on va bien rire, on va se taper les mains sur les cuisses, ça sera le thème de l'humour dans 2 semaines.
Et je préparais des jingles pour Valérie. Allez, merci à tous pour cette nouvelle année, on se quitte avec cette chanson et le jingle qui suivra. Plus, ciao, bye.
Ciao les gars,
ciao.
Oh, la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.